Fondé en 2007, l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires a pour mission de rassembler, d'analyser et de rendre disponibles les documents issus du protectorat de Bohême-Moravie sous domination nazie durant la Seconde Guerre mondiale et du régime communiste qui a suivi. Une mission essentielle que les intérêts politiciens, les gardes-chapelles et les antagonismes historiques compliquent significativement. En témoigne la crise institutionnelle qu'a traversée l'Institut en avril dernier avec la révocation de son directeur Daniel Herman et la désignation de son successeur Pavla Foglova, une passation de pouvoir qui s'est réalisée non sans heurts. Chercheuse à l'Institut Ludwig Boltzmann à Vienne et auteur de l'ouvrage intitulé 1956 en Tchécoslovaquie, une déstalinisation manquée, l'historienne française Muriel Blève a récemment été nommée membre du nouveau conseil scientifique de l'Institut. Au micro de Pierre Maignan, Muriel Blève expose sa vision de ce rôle et les enjeux épistémologiques qui se cachent derrière l'existence d'une telle institution dans une société qui peine à évoquer sereinement son récent passé communiste ou bien la question des expulsions des populations allemandes des Sudètes au lendemain de la guerre. Muriel Blève donc est interrogée par Pierre Maignan.
Panorama.
Panorama.
On devient membre de ce conseil parce que j'ai été nominée pour être approuvée par la directrice, je crois. La raison pour laquelle j'ai été nominée, je pense que c'est mon intérêt marqué depuis plusieurs années pour des questions liées à cet institut, à son existence et au rôle qu'il devrait jouer, et notamment au fait que j'étais candidate à la dernière campagne pour être directrice.
Et quel travail concret vous y attend? Que font les gens qui sont membres de ce conseil scientifique?
C'est un peu la question, à vrai dire, parce que jusqu'à présent, ils faisaient assez peu. Leur rôle était assez minimisé. Donc, ils se réunissaient une fois par an. Et on n'avait pas grand rôle dans la discussion sur l'Institut. Mais d'après ce qu'on nous a dit cette fois, justement, la nouvelle directrice et le nouveau conseil de surveillance voudraient que le conseil scientifique joue un rôle beaucoup plus important.
Mmh. D'accord, donc il y a eu des bouleversements effectivement dans cet institut, il y a eu quelques polémiques, il y a eu l'ancien directeur Daniel Herman qui a été révoqué officiellement pour mauvaise gestion, il a été remplacé par Pavla Foglova. À droite, on a dit qu'il y avait une volonté politique de la gauche de prendre la main sur cette institution qui dispose des archives de l'époque communiste. À gauche, on condamne aussi la politisation de cet institut. Quel regard vous avez porté sur ces événements?
Je pensais que la révocation de Herman était justifiée. Je ne sais pas d'un point de vue gestionnaire, parce que je ne suis pas dans le détail des comptes. Par contre, d'un point de vue scientifique, je trouve qu'il n'a absolument pas rempli le rôle qu'il aurait dû remplir. Donc, pour moi, ça fait sens. Par contre, je trouve que ça aurait été certainement plus conforme aux règles internationales si il avait été révoqué, remplacé ou qu'il avait gardé la tête provisoirement de l'Institut pendant qu'on organisait un concours pour un nouveau directeur. Dans les 3 ou 6 mois, ça aurait été, disons, plus logique. Bon, on a choisi une voie un peu plus longue et un peu plus tortueuse. On va voir ce que ça donne.
D'accord. Et quel rôle, selon vous, doit jouer justement cet Institut dans un pays comme la République tchèque qui a un passé communiste?
Il a un rôle énorme à jouer, à mon sens. C'est pour ça que je m'y intéresse depuis longtemps. La mémoire du communisme est quelque chose qui est très peu... comment dire, qui est à la fois... C'est ce que les Américains appellent l'éléphant, the elephant in the room. C'est la chose dont tout le monde, que tout le monde a à l'esprit, mais dont personne ne parle réellement. Il faut absolument nettoyer tout ça. Il faut absolument que cette mémoire soit formée sur la base de vraies connaissances et pas sur des impressions vagues où c'est celui qui crie le plus fort qui est le plus entendu. Il faut qu'on puisse travailler dans ces archives. Il faut qu'on puisse travailler notamment sur la police secrète, savoir quel rôle elle a joué exactement, comment cette collaboration s'est organisée, comment la résistance s'est organisée, s'il y en a une. C'est quelque chose qui est fondamental pour créer une meilleure atmosphère dans la vie publique tchèque.
Parce que selon vous, jusqu'à présent, ce travail n'a pas été fait?
Non, jusqu'à présent, ce travail n'a quasiment pas été fait.
Vous pensez qu'on peut avoir une étude scientifique en République tchèque dégagée d'arrière-pensée politique? Est-ce qu'on peut avoir le recul nécessaire en République tchèque pour évoquer de façon un peu dépassionnée peut-être des événements qui sont assez récents finalement?
Je pense que oui. Je pense que la notion qu'on puisse faire de l'histoire qui soit dégagée de toute vision politique est complètement illusoire. Mmh. Même si on fait l'histoire de Charlemagne, on a une vision politique. Mmh. Donc c'est pas la question. La question c'est est-ce qu'on peut multiplier les études qui donnent une vision comparative, contrastée, argumenter, où on puisse discuter, où on puisse débattre, où on puisse discuter, mais où on puisse avancer. Et si on voit comment ça s'est fait en Allemagne, c'est loin d'être parfait, certes, mais on a fait énormément de progrès, donc oui, c'est possible.
D'accord, donc vous prenez le cas de l'Allemagne. Est-ce que dans d'autres pays post-communistes, il y a aussi des exemples d'instituts de ce type? Est-ce que la mémoire du communiste est traitée de la même façon?
Dans tous les pays communistes, il y a une tentative de plus ou moins de créer l'équivalent de cet institut. Ça se fait avec plus ou moins de bonheur. Je pense que le meilleur exemple, c'est la Pologne, où l'institut a quand même... Bon, il a aussi été énormément soumis à des pressions politiques, avec bon, des résultats qui n'ont pas toujours été très brillants, mais quand même, à l'IPN en Pologne notamment, il y a eu cette grande discussion après le livre de Jan Gross sur bon, pas sur le communisme, mais sur l'occupation nazie, mais pour les Polonais, c'est tout aussi prégnant, disons. Donc oui, c'est possible. Et je pense que la Pologne a fait un énorme travail depuis 89 que la République tchèque n'a pas fait.
Et quel est l'enjeu du contrôle, justement, des archives de la période communiste? Est-ce que ça peut gêner certaines personnes?
Ben, l'enjeu, c'est qu'elles soient ouvertes. Quand les archives sont fermées, c'est là qu'elles sont le plus instrumentalisées, parce que il n'y a que ceux qui... Comment dire? Il y a toujours quelqu'un qui y a accès, mais ce sont des personnes mal intentionnées. Donc le dossier, il va sortir de toute façon, mais il va sortir exactement sous la forme du scandale qui a été fait autour de Kundera, par exemple. On sort un dossier n'importe comment, sans contexte historique, sans explication, sans lui donner la parole, sans... Bon, et on en fait un jeu de massacre médiatique qui, historiquement, est extrêmement douteux, et scientifiquement, qui n'a strictement aucun intérêt. Donc c'est exactement ça qu'on peut éviter, et qu'il faut éviter en ouvrant les archives. À partir du moment où tout le monde y a accès, on arrête de jouer le petit jeu de « je publie ce dossier que j'ai dans mes tiroirs ».
Alors pourquoi avoir créé cette institution si elle n'a pas joué son rôle aussi longtemps? Quelle était à l'origine la portée de cette création?
Parce qu'elle était tellement sous le feu de pression politique, c'était tellement politisé que ça a été confisqué en gros par les intérêts politiques. Mais cela dit, il y avait un projet depuis la fin des années 90, depuis 98, il y avait un projet d'ouvrir ces archives. Et d'ouvrir ces archives dans un but noble, si je peux dire. Pas dans un but de continuer à régler des petits coups entre amis, à faire des petits scandales pour discréditer ses ennemis, etc.
Alors, il faut rappeler que bon, c'est l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires, donc ça comprend également l'étude du régime nazi. Et de ce côté-là, il y a moins de problèmes. C'est dépassionné comme débat ou c'est...
Ah non, pas du tout. C'est pas du tout dépassionné. Dans un état aussi dramatique que les études sur le communisme, parce que là aussi, l'éléphant dans la pièce, c'est l'expulsion des Allemands du Sud-Est, où les autorités politiques sont pas du tout, les élites en général, n'ont pas tellement envie d'en parler, pas tellement envie de remuer ça encore une fois. Et donc, dès qu'on parle des Allemands en Bohème, Moravie, on arrive tout de suite au problème de l'expulsion. Ça permet de, comment dire, de monter en épingle, de mettre en valeur la résistance, qui certes a existé, mais était quand même extrêmement minime, et de bien cacher la collaboration, qui elle était probablement pas si minime que ça, mais en fait on n'en sait pas encore grand-chose, parce que ça a été tellement peu recherché que c'est difficile à dire.
Ça pose aussi la question de la définition peut-être d'un régime totalitaire. Qu'est-ce que c'est exactement?
Justement, c'est un gros problème que j'ai avec le nom de cet institut, c'est un régime totalitaire. Je pense que la recherche historique de pointe aujourd'hui est assez d'accord pour dire que ça n'existe pas un régime totalitaire. On a un régime dictatorial avec des tendances totalitaires, mais l'idée que la société puisse être contrôlée de bout en bout, entièrement sous la coupe d'un régime qui lui dicte tout ce qu'elle doit faire, c'est absurde. On sait très bien que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. La société a été impliquée dans le régime, la société a participé au contrôle, et c'est justement pour ça qu'il est tout à fait crucial de savoir en quoi et comment elle a été impliquée.